La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Le Tartare et les Champs-Élysées. Aussitôt après avoir quitté le tribunal des trois juges, Hercule vit s'ouvrir devant lui un gouffre immense, d'où s'élevaient des tourbillons d'une fumée noire et épaisse. Cette fumée couvrait un fleuve de feu, appelé le Plégéton, qui roulait ses flots enflammés avec un bruit effroyable. Non loin de là coulait aussi le Cocyte, autre fleuve intarissable, formé des larmes des malheureux enfermés dans le Tartare, car ils venaient d'entrer dans ce séjour des tourments éternels. Les souverains de ces tristes lieux étaient les furies, qui, les cheveux hérissés et armés de fouets, tourmentaient impitoyablement les criminels, en leur présentant sans cesse dans des miroirs l'image de leurs crimes. C'était là qu'étaient précipités à jamais les mânes des traîtres, des ingrats, des parjures, des enfants dénaturés, des meurtriers, des hypocrites, qui pendant leur vie avaient fait semblant d'être bons et honnêtes pour mieux tromper les autres hommes. Mais ces misérables n'étaient pas les seuls habitants du Tartare, il en distinguait aussi les grands scélérats, qui avaient épouvanté le monde par quelques crimes effroyables. Pour chacun de ceux-là, Pluton, avec l'aide des furies, avait inventé quelques supplices extraordinaires, dont quelques-uns valent bien la peine d'être racontés. Parmi ces scélérats, si justement atteints par la vengeance divine, Hercule reconnut un roi grec nommé Salmoné, qu'il avait autrefois rencontré sur la terre. Cet insensé, à qui l'orgueil avait fait perdre la raison, se persuada qu'il était Dieu et l'égal du maître du tonnerre. Pour imiter au loin le roulement de la foudre, il se faisait traîner la nuit dans un char sur un pont d'airain, d'où il lançait des torches enflammées sur de malheureux esclaves rassemblés sous ce pont, que des gardes assommaient pour imiter les effets du tonnerre. Jupiter, indigné à la fois de son orgueil et de sa cruauté, le foudroya lui-même en réalité, et le précipita dans le Tartare où il fut condamné à brûler éternellement d'un feu qui le dévorait sans le consumer. Le frère de Salmoné, nommé Sisyphe, ne valait pas mieux que lui. C'était un fameux brigand de l'Attique qui attirait les voyageurs dans son antre, où il les faisait périr par d'effroyables supplices. Le même Thésée, qu'Hercule venait arracher aux enfers, l'ayant rencontré, le tua dans un combat. Et Jupiter inflige à ce misérable pour sa punition dans le Tartare de rouler incessamment avec d'incroyables efforts un rocher énorme vers la cime d'une montagne. Ce n'était qu'après de longs et incroyables travaux qu'il pouvait parvenir à approcher ce but, qu'il se croyait toujours prêt d'atteindre. Mais au moment où, couvert de sueur et épuisé de fatigue, il voyait le bloc prêt à prendre son aplomb, soudain, le rocher chancelait et roulant jusqu'au pied de la montagne, l'obligeait à recommencer sans relâche ce travail qui devait être sans fin. Cette fable de Sisyphe, mes enfants, est l'image parfaite de tous les hommes qui ont le malheur d'être ambitieux ou envieux du mérite des autres. Ils consument leur vie dans des travaux continuels qui épuisent leurs forces, et lorsqu'ils se croient près d'atteindre le but qu'ils se proposaient, la pierre retombe et ils se voient condamnés à de nouveaux efforts. Je ne crois pas qu'il y ait parmi vous un seul de ces caractères malheureux, et vous devez vous-même comprendre la différence qui existe entre la louable émulation que l'on éprouve pour mériter les louanges de ses maîtres et de ses camarades, et la basse jalousie qui ne peut supporter sans colère le succès que d'autres plus heureux peuvent obtenir. Le travail et l'application ne sont d'ailleurs jamais perdus pour personne, et c'est déjà profiter que d'en connaître le prix. À quelque distance du brigand Sisyphe, Hercule aperçut Tantale, roi de Phrygie, qui, toujours dévoré par la faim et consumé d'une soif ardente, était éternellement plongé dans une eau limpide qui se retirait de ses lèvres dès qu'il cherchait à s'en abreuver. En même temps, des branches chargées de fruits exquis et parfaitement mûrs s'abaissaient jusqu'à la portée de ses mains, mais aussitôt qu'il étendait les bras pour les saisir, la branche se relevait et le malheureux Tantale s'abandonnait à un désespoir inextinguible comme la soif qui le dévorait. Ce roi cruel avait bien, à la vérité, mérité ce supplice. Un jour, les dieux ayant fait un voyage sur la terre vinrent leur demander l'hospitalité. Il fit semblant de les recevoir avec grand plaisir, mais pour éprouver leur divinité dont il doutait, il ordonna à son cuisinier de leur servir en ragoût les membres de son propre fils Pélops, qui était un jeune prince bon et aimable. Les convives devinèrent ses mets exécrables et refusèrent de prendre part au festin, à l'exception pourtant de Minerve, qui par mégarde sans doute mangea une des épaules du pauvre Pélops. Jupiter fut si indigné de la barbarie de ce père dénaturé qu'il le frappa de la foudre et le précipita dans les enfers où il fut condamné à l'affreux supplice que je viens de vous raconter. Quant au jeune Pélops, les dieux touchés de pitié le ressuscitèrent. mais ne pouvant lui rendre son épaule que Minerve avait mangée, ils lui en donnèrent une d'ivoire, ce qui ne le dédommagea pas entièrement, comme vous pouvez croire, de celle qu'il avait perdue. Hercule se disposait à quitter ces tristes lieux où il avait vainement cherché son ami Thésée, lorsque son attention fut attirée par les gémissements d'une foule de femmes échevelées, dont le supplice consistait à verser incessamment de l'eau dans un tonneau sans fond. Il reconnut alors les Danaïdes, c'est-à-dire les filles d'un roi d'Argos nommé Danaus, dont il avait souvent entendu parler dans sa jeunesse. Les Danaïdes étaient 50 sœurs à qui leur père, averti par un oracle qu'un de ses gendres le tuerait pour régner à sa place, sut persuader d'égorger dans la même nuit leurs 50 maris avec des poignards qu'il leur distribua secrètement le jour de leurs noces. Cet horrible complot fut exécuté par ces femmes cruelles, à l'exception d'une seule, nommée Hypermnestre, qui eut le courage de désobéir à son père malgré ses menaces et de sauver la vie de son mari, Lyncé, avec lequel elle prit la fuite. Peu de temps après, l'oracle qui avait tant effrayé Danaus se trouva vérifié, car Lyncé, ayant déclaré la guerre à ce roi perfide, le tua dans une bataille. Jupiter, en punition du crime des 49 sœurs d'Hypermnestre, les précipita dans le Tartare, où leur supplice fut de remplir éternellement un tonneau sans fond. Quant à cette princesse, les habitants d'Argos, pour honorer sa piété conjugale, instituèrent une fête solennelle que l'on nommait la fête des flambeaux, parce qu'elle s'était servie d'un flambeau pour soustraire son époux au sort funeste qui l'attendait. Hercule sortit enfin de ce séjour de douleur et aperçut devant lui un fleuve paisible qui séparait le Tartare des Champs-Élysées, c'est-à-dire le lieu des châtiments du lieu des récompenses éternelles. Ce fleuve avait le nom le Léthé. Les eaux du Léthé, que le héros traversa sans difficulté, jouissaient d'une singulière propriété. Elles faisaient perdre la mémoire à ceux qui s'en abreuvaient. Ce qui signifie que les hommes vertus en entrant dans les Champs-Élysées oubliaient toutes les misères de l'humanité. Un feuillage toujours vert, des bosquets odoriférants, des prairies émaillées de fleurs qui éclairaient incessamment une lumière douce et éclatante à la fois, formaient ce lieu de délices où les hommes qui avaient été bons et sages sur la terre étaient seuls admis après leur mort. Jamais la nuit ne venait assombrir ces beaux lieux et les mânes vertueux y goûtaient une joie pure et sans mélange. Hercule reconnut sous ces ombrages divins une foule de rois, de héros, de simples mortels qui avaient autrefois rendu de grands services à leurs semblables. Il y aperçut Cécrops, l'Égyptien, ce fondateur d'Athènes, qui avait enseigné aux Grecs la culture de la terre. Érichthon, qui le premier inventa l'usage de la monnaie pour faciliter le commerce entre les peuples de la Grèce. Triptolène, à qui Cérès elle-même après se servir de la charrue. Codrus, ancien roi d'Athènes, qui ayant été averti par un oracle pendant une guerre qu'il eut à tenir, que la nation dont le roi périrait dans le combat serait triomphante, se travestit en simple soldat, et alla s'offrir au premier coup des ennemis pour assurer la victoire à son peuple. Et enfin, un autre prince, qui pendant une peste effroyable supplia les dieux de ne frapper que lui seul et d'épargner ses sujets. Ses vœux furent exaucés, mais après sa mort, Jupiter le plaça dans les Champs-Élysées pour récompenser son humanité. Il ne faut pas croire pourtant, mes enfants, que ce lieu ne fut réservé que pour les rois et les héros. C'était là que descendaient également les mânes de tous les hommes qui avaient été bons et vertueux sur la terre, dans quelques conditions qu'ils fussent nés. Je crois d'ailleurs vous avoir déjà dit que tous les mortels devenaient égaux dans le royaume de Pluton, et souvent, l'esclave patient et fidèle habitait les Champs-Élysées, tandis que son maître, orgueilleux et impitoyable, était précipité dans les profondeurs du Tartare où les flammes du Phlégéton le dévoraient.